RFI 5h à Paris et Kinshasa 4h temps universel. Le journal avec vous, Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette.
Bonjour Paul, bonjour à tous. À la une de ce journal, est-ce le début d'un dialogue direct? Des délégations du M23 soutenues par le Rwanda et de la RDC sont à Doha selon nos informations. Pour l'instant, la discrétion est totale. Explication dès le début de cette édition. En Asie du Sud-Est, au lendemain d'un terrible séisme, le bilan en Birmanie est nettement en hausse. Près de 700 morts dans le pays et plus de 1600 blessés selon la junte. Vous entendrez le témoignage d'une habitante de Rangoon. Au Liban, pour la première fois depuis le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, Israël a mené des frappes hier sur un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth. Une riposte à des tirs de roquettes en provenance du Liban, selon Israël, qui accuse le Hezbollah qui n'a rien revendiqué. Un nouveau prêt de 20 milliards de dollars accordé par le FMI à l'Argentine. Le Fonds monétaire international l'a confirmé hier soir. L'Argentine est déjà le principal débiteur du FMI. Et puis en France, le ministre de l'Outre maire Manuel Valls de retour à Nouméa pour tenter de lancer les négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. En République démocratique du Congo, le M23, groupe armé anti-gouvernemental soutenu par le Rwanda, a conclu hier à Goma avec la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique Australe, un accord sur l'évacuation de la force militaire déployée par cette dernière. Et en parallèle, selon nos informations, des délégations de la RDC et du groupe armé M23 sont actuellement à Doha, au Qatar. Il y a donc cette question, est-ce que cela signifie le début d'un dialogue direct entre les deux parties? Impossible de le dire pour le moment, puisque c'est la discrétion qui est de mise à Doha, qui avait également réuni les deux présidents congolais et rwandais le 18 mars dernier. Les précisions de Paulina Zidi à Kinshasa.
À Kinshasa, pour plusieurs diplomates en poste, c'est cette discrétion qui a conduit au succès de la rencontre du 18 mars dernier. Pas d'annonce avant le rendez-vous, seuls quelques proches des deux chefs d'État étaient dans la confidence. Résultat, il a fallu attendre le communiqué du Qatar pour confirmer l'entrevue. Quand une information fuite, le rendez-vous tombe déjà un peu à l'eau, estime en effet un spécialiste du dossier. Une méthode qui tranche avec celle des autorités angolaises qui jusqu'ici étaient en charge de la médiation. Les deux rendez-vous ratés de Luanda en décembre et en mars avaient, eux, été officiellement annoncés à l'avance sur les réseaux sociaux et les parties avaient confirmé ou infirmé publiquement leur participation. Cette fois-ci, des sources confirment que les deux délégations sont bien à Doha, que des échanges avec la médiation qatarienne sont en cours. Enfin, selon nos informations, il y aurait encore des préalables à régler avant de pouvoir réunir autour d'une même table les différents acteurs. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Direction l'Asie du Sud-Est, le tremblement de terre qui a secoué la région hier laisse la Birmanie et la Thaïlande sous le choc. Le bilan réactualisé ce matin fait état de 8 morts en Thaïlande et de près de 700 victimes et plus de 1600 blessés en Birmanie, bien loin des premières estimations. Plusieurs régions du pays ont été touchées et les destructions sont considérables, si bien que le chef de la junte birmane a lancé un appel à l'aide internationale, ce qui est assez rare. Il a invité tout pays, toute organisation à venir apporter son secours, mais déjà des voix critiquent l'inaction du régime, à l'image de cette jeune habitante de Rangoon qu'on écoute.
En Thaïlande, le gouvernement a immédiatement pris les choses en main et a pu sauver des vies. Mais ici, c'est l'inverse. Le chef de la junte a dit qu'il allait protéger les sinistrés, mais il ne fait rien. Il a dit que la situation était très grave, mais en réalité, il s'en fiche. Les responsables du pays promettent qu'ils vont régler la situation, qu'ils vont faire tout ce qu'il faut, mais ils ne vont rien faire du tout. En réalité, ils ne se soucient pas des victimes. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur propre personne.
They only care about themselves. Des propos recueillis par Marine de la Moissonnière. Et depuis ce séisme en Asie du Sud-Est, les réactions internationales s'enchaînent. Suite à l'appel du chef de la junte birmane, les États-Unis vont aider le pays, a annoncé hier le président américain Donald Trump. Le premier ministre japonais Ishiba a quant à lui transmis ses condoléances aux victimes. Je suis profondément attristé d'apprendre les dégâts importants causés par le tremblement de terre dans le centre de la Birmanie, a-t-il déclaré dans un message écrit hier. En Ukraine, au moins 4 morts et 19 blessés dans une attaque de drones russes dans la ville de Dnipro, c'est dans le centre-est du pays. Des frappes qui ont endommagé des immeubles et provoqué un incendie selon les autorités. Toujours sur fond de guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a accusé hier son homologue russe Vladimir Poutine de chercher à jouer la montre en évoquant l'idée d'une administration transitoire pour Kiev sous l'égide de l'ONU. Une option qui impliquerait le départ de Volodymyr Zelensky avant toute négociation sur un accord de paix. Direction le Liban, hier à Beyrouth, la trêve fragile entre Israël et le Hezbollah a volé en éclats pour la première fois depuis le cessez-le-feu qui avait mis fin à la guerre en novembre dernier. Israël a mené des frappes ce vendredi sur un immeuble de la banlieue sud de la capitale libanaise. Une riposte à des tirs de roquettes non revendiqués en provenance du Liban, attribués au Hezbollah par Israël. Le bombardement a créé des mouvements de panique à Beyrouth et fait monter l'inquiétude d'une reprise de la guerre pour les Libanais. Je vous propose d'écouter le témoignage à Beyrouth de Rafi Toussounian, 50 ans et couturier.
J'ai vu sur Internet qu'ils allaient bombarder. Et bien sûr, j'ai eu peur. On est près de tout. Et j'ai tout de suite dit à ma mère d'ouvrir les portes et les fenêtres parce qu'avec le souffle d'un bombardement, le verre peut exploser. On s'est habitué et en même temps, on ne peut pas s'y faire. On vit au jour le jour, on verra. Que Dieu nous protège. J'espère que la guerre ne va pas revenir. Personne ne veut la guerre. On en a assez. La situation nous épuise. À chaque fois qu'on relève la tête, il se passe quelque chose et tout va mal.
Des propos recueillis par notre correspondante au Liban, Sophie Guignon. Toujours au Proche-Orient, à Gaza, l'armée israélienne reconnaît aujourd'hui avoir tiré sur des ambulances dans l'enclave palestinienne. Les faits se sont produits dimanche dernier à l'ouest de Rafah, une ville du sud de la bande de Gaza, où les troupes israéliennes sont repassées à l'offensive le 20 mars dernier, soit 2 jours après la reprise des bombardements israéliens, après presque 2 mois de trêve. Le Hamas dénonce de son côté un crime de guerre. En Turquie, nouvel appel de l'opposition à la mobilisation ce soir à Istanbul. Contestation déclenchée le 19 mars dernier par l'incarcération du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, principal rival du président turc Erdogan. De leur côté, les autorités turques accentuent la répression. Des centaines de manifestants ont été arrêtés, de même que des journalistes et des avocats. Un journaliste suédois, Joachim Medine, arrêté jeudi à son arrivée en Turquie, a été placé en détention. Le rédacteur en chef de son journal l'a confirmé hier soir à l'AFP. 20 milliards de dollars, c'est le montant du nouveau prêt sollicité par l'Argentine auprès du FMI, le Fonds monétaire international. Le FMI qui a confirmé en parlant de négociations très avancées. L'Argentine est déjà le principal débiteur du FMI avec une dette de 44 milliards de dollars. Correspondance à Buenos Aires de Théo Conscience.
La relation entre l'Argentine et le FMI est vieille et tumultueuse. 22 accords signés depuis 1958. Mais le président argentin Javier Milei l'assure, l'accord actuellement en négociation n'aura rien à voir avec les précédents.
Ce sera absolument différent de ce qui s'est passé dans l'histoire argentine, mais également dans l'histoire du Fonds monétaire international.
La différence, selon Javier Milei, c'est que son pays a déjà mené les réformes que demande habituellement le FMI en contrepartie. L'an passé, le président argentin a réduit les dépenses publiques de 5% du PIB et ramener le budget de l'État à l'équilibre.
L'Argentine a déjà fait un ajustement budgétaire beaucoup plus important que ce que demandait le Fonds monétaire international.
Un équilibre budgétaire qui fait toute la différence, selon le ministre de l'économie Luis Caputo, qui dirigeait la Banque centrale lorsque le FMI a prêté la somme record de 44 milliards de dollars à l'Argentine en 2018.
La différence fondamentale, c'est que cette fois, les fonds ne vont pas servir à financer les dépenses ou le déficit, mais permettront de recapitaliser les actifs de la Banque centrale.
Renflouer les caisses de la Banque centrale, voilà l'objectif affiché du gouvernement argentin pour ce nouveau prêt. Déjà dans le rouge, les réserves ont encore diminué de plus d'1 milliard de dollars rien que la semaine dernière, dans un contexte de pression sur le taux de change du peso argentin. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Dans l'actualité française, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est arrivé en Nouvelle-Calédonie ce matin à 8h, heure de Nouméa. C'est son deuxième déplacement dans l'archipel depuis fin février. La visite va durer 4 jours. Emmanuel Valls veut faire avancer les négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, déjà amorcée lors de sa première visite, Stéphane Duguay.
Tout est fragile, reconnaît lui-même Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer, interrogé à l'Assemblée cette semaine, veut dire dit-il, entamer de véritables négociations politiques. Jusqu'ici, le numéro 3 du gouvernement avait déjà réussi à mettre indépendantistes et non-indépendantistes autour d'une même table pour discuter. Les échanges avaient abouti à un document de synthèse sur lequel les négociations des 4 prochains jours vont s'appuyer. Même si des progrès ont été salués des deux côtés, l'atterrissage sur un accord est encore loin. Les indépendantistes du FLNKS ont publié un communiqué ce vendredi. Pour avancer, ils demandent l'établissement d'un cadre méthodologique clair, notamment la présence à la table des négociations de Christian Théin, le chef de l'organisation. Il est emprisonné dans l'Hexagone pour son rôle présumé dans les émeutes de 2024. Le FLNKS réclame aussi la supervision des négociations par l'ONU, des conditions difficilement entendables pour les non-indépendantistes. Au-delà d'avoir rouvert le dialogue pour Manuel Valls, l'enjeu maintenant c'est de permettre aux deux parties de trouver un compromis sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Les précisions de Stéphane Duguay. Et on termine dans les salles obscures. On revient sur les sorties cinéma de ce mercredi en France pour parler d'un documentaire exceptionnel sur la corrida qui a remporté la Concha d'Or, la plus haute récompense au festival de San Sebastián. Dans Tardes de Soledad, l'Espagnol Albert Serra suit une star de la corrida, le Péruvien Andrés Rocarrey, Elisabeth Lequeré.
De lui, on dit que c'est le roi des toreros, le plus doué et le plus téméraire, capable de risquer sa vie à chaque instant dans l'arène. Pendant des mois, Albert Serra et son équipe l'ont suivi au fil d'une douzaine de corridas à Séville, Madrid ou Lima, filmant le face-à-face entre l'homme et l'animal au téléobjectif en plan serré.
Comme les pueblos antiguos, la música.
Ils ont accumulé 600 heures de rush pour capturer l'essence du combat, la parade, la pose de banderille, l'affaissement de la bête, jusqu'au moment où l'on voit dans les yeux du taureau la vie en train de le quitter. Est-ce une performance artistique ? De fait, le film n'est pas dénué d'une forme de beauté glacée, soutenue par l'habit de lumière et la gestuelle chorégraphiée du torero, mais la violence, répétée ad nauseam et captée de façon quasi clinique, nous montre tout autre chose, la brutalité du rituel, révélée dans ses moindres détails, nous faisant basculer de spectateurs à témoins, voire même complices.
Les précisions d'Elisabeth Lequeré.
Juliette Pietraszewski.
Et on poursuit notre tour de l'actualité internationale avec votre rendez-vous du samedi, l'accent des autres et un tour d'horizon de ce qui a fait l'actualité durant la semaine dans les différentes régions du monde. Aujourd'hui, on s'intéressera notamment à la condamnation en Algérie de l'écrivain Boualem Sansal. Et puis, vivre ailleurs, notre chronique expatriation nous emmènera au salon S'expatrier, mode d'emploi. Sa 15e édition a eu lieu cette semaine à Paris. RFI, il est 5h12 à Paris et à Bruxelles. Tout de suite, l'accent des autres, présenté par Olivier Nederland de la RTBF.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Voici l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ici et la RTBF. Et nous allons d'abord revenir aujourd'hui sur cette condamnation en Algérie pour l'écrivain Boualem Sansal. Une condamnation à 5 années de prison ferme, Nicolas Sûr.
Oui, l'affaire est au cœur de la grave crise diplomatique entre Paris et Alger. L'auteur, qui a la double nationalité, a été condamné notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire.
L'antisémitisme une nouvelle fois largement condamné en France, une semaine après l'agression d'un rabbin à Orléans en rue par un adolescent. La communauté juive d'Orléans a reçu des soutiens venus de tous les bords politiques. En Belgique, le centre de crise invite la population à préparer un kit d'urgence utile en cas d'évacuation ou de catastrophe. La précaution n'est pas neuve. Jacques Crémers, elle refait surface en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Oui, et d'ailleurs, c'est la Commission européenne qui mercredi a encouragé le public à constituer ce type de paquet de survie, de quoi tenir au moins 72 heures en cas d'urgence, en ce compris une agression armée.
Ce constat aussi en Suisse, la criminalité a augmenté l'an dernier, particulièrement dans le domaine des agressions sexuelles et des violences domestiques, Pierre Anchoffat.
Oui, même si, selon les enquêteurs, une part non négligeable de ces hausses résulte d'une parole qui s'est libérée, les victimes osent plus qu'hier déposer plainte et donc révéler l'ampleur d'une criminalité longtemps sous-estimée.
Enfin, après plusieurs mois de soubresauts politiques, le Canada est officiellement en campagne électorale, Nadi Moubarak.
Oui, 36 jours de campagne en tout, en vue du scrutin le 28 avril prochain.
Voilà pour le sommaire de cette semaine. Il était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, à la sûreté de l'État et à la stabilité des institutions. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté il y a 6 mois à l'aéroport d'Alger, a donc été condamné jeudi à 5 années de prison ferme, Nicolas.
Oui, c'est la moitié de la peine requise par le parquet. Le procureur avait demandé 10 ans de prison et 1 million de dinars d'amende. Lors de son procès express, Boualem Sansal avait nié toute intention de porter atteinte à son pays. Il était accusé d'avoir repris à son compte, lors d'une émission télé, la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été amputé au profit de l'Algérie sous la colonisation française.
Alors l'affaire a provoqué un tollé de réactions dans la classe politique française et exacerbé aussi les tensions entre Paris et Alger. Mais Nicolas, un geste d'apaisement n'est pas exclu.
En effet, par médias interposés, les présidents Macron et Tebboune ont ouvert la voie à une reprise des discussions la semaine dernière. Selon nos informations, Anne-Claire Legendre, la conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français, s'est rendue mardi à Alger. Un déplacement discret destiné, selon certains médias, à préparer une visite de Jean-Noël Barrot début avril en Algérie. Mais selon un bon connaisseur du dossier, impossible pour le chef de la diplomatie française de se rendre sur place si Boualem Sansal est toujours en prison. Le scénario d'une grâce présidentielle serait donc sur la table. Une grâce qui pourrait intervenir, selon le spécialiste Hassni Abidi, avant le 5 juillet et la fête nationale, en raison de l'état de santé de l'écrivain et de son âge avancé. Boualem Sansal a 80 ans et il souffre d'un cancer.
On parlait d'Emmanuel Macron il y a un instant. Le président français a dénoncé une nouvelle fois cette semaine le poison de l'antisémitisme. Il promet de ne pas céder au silence et à l'inaction après la violente agression du rabbin d'Orléans, c'était samedi dernier, en pleine rue et devant son fils. L'auteur de l'agression, un adolescent, a été interpellé. Il sera jugé en avril devant le tribunal pour enfants. Et juste après les faits, la communauté juive d'Orléans a reçu des soutiens de tous bords politiques. Reportage Patricia Pourrez d'ici Orléans.
Dans la grande salle de la synagogue d'Orléans, André Druon n'arrête pas de répondre au téléphone.
Ah, je suis très pris. Ça m'arrête pas.
Le président de la communauté juive de la ville a été l'un des premiers à qui le rabbin a raconté son agression.
Il a été agressé par un jeune qui est venu, qui manifestement était déjà semblé agressif d'un point de vue physique. Il a été filmé en selfie avec l'agresseur et puis il a dit « Vous êtes juif, vous êtes juif, vous les juifs, vous êtes des fils de... hein ?» Voilà, donc à plusieurs reprises, il lui a craché dessus et puis après il en est venu à lui donner un coup de poing.
Il y a ensuite d'autres coups à la tête, sur le torse et même une morsure dans le dos. Des témoins finissent par s'interposer et l'agresseur s'en va. Il sera interpellé quelques heures plus tard par la police. Chez les fidèles juifs comme Samuel Bitoun, c'est la consternation.
On n'a pas eu d'agression depuis des années, on ne connaît pas ce type d'acte ici à Orléans. Et hier on a appris la nouvelle, on était tous vraiment choqués.
Pour ce père de famille, pas question de céder à la panique.
Je dirais pas peur, mais c'est vrai que c'est une retenue. On va être discret, on va pas non plus s'afficher ouvertement.
Dès samedi soir, la communauté juive d'Orléans a reçu des témoignages de soutien de la France entière et de tous les bords politiques.
Reportage de Patricia Pourrez pour Ici Orléans.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Connaissez-vous les 10 objets indispensables à un kit de survie? En tout cas, les 10 objets recommandés par les autorités en cas de crise. Ce conseil de prudence n'est pas neuf, mais il a refait surface cette semaine à l'initiative de la Commission européenne à Bruxelles, Jacques.
Oui, la Commission a en effet présenté mercredi un plan destiné à préparer la population à des risques divers tels que les catastrophes naturelles, les cyberattaques ou encore une agression armée. Ces objets doivent permettre à leurs propriétaires de vivre ou survivre 72 heures en cas de nécessité, ce que certains n'ont pas manqué d'anticiper.
Nous en avons fait l'acquisition il y a très peu de temps.
On va avoir le kit de premier secours, un briquet, une batterie externe, une lampe de poche, une lampe frontale et des piles en cas de nécessité.
Ajoutez-y vos médicaments, de l'eau, une radio, vos documents d'identité, un peu de nourriture et un couteau suisse multifonction et vous voilà prêt à évacuer rapidement ou à vous passer d'électricité pendant quelques heures. Réitérés dans un contexte de tension internationale, ces conseils peuvent effrayer une partie de la population. en faire sourire une autre, mais le Centre national de crise se veut, lui, rassurant. Ce n'est pas neuf, cela fait une dizaine d'années que ces recommandations sont formulées. C'est ce que dit Thomas Gates, son porte-parole.
Ce kit d'urgence, c'est pas nouveau. Ça fait quelques années que les autorités conseillent à la population d'adopter ce bon réflexe pour faire face à toute une série de situations d'urgence, notamment une coupure de courant prolongée, une inondation, une tempête, le dégagement d'une fumée toxique d'une usine en feu.
Cette information vient en tous les cas rappeler à chacun que le risque zéro n'existe pas et qu'en adoptant les bons comportements, chacun peut soulager le travail des services de secours.
Ce constat, en Suisse à présent, les délits pénaux ont augmenté de 8% l'an dernier et Pierre-Anne, la hausse des violences liées au genre est particulièrement marquée.
Les dénonciations pour viol ont en effet progressé de près de 30% en 2024, ce qui ne veut pas forcément dire que les viols ont augmenté dans la même proportion. Mais davantage de victimes osent affronter l'épreuve d'une dénonciation pénale et de la procédure qui s'ensuit. Au-delà du phénomène MeToo, il y a eu tout un débat en Suisse sur la définition du viol. Le Parlement a fini par l'étendre à toute pénétration non consentie. Si la victime a dit non, l'agression sera qualifiée de viol. Et pour la commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti, ces discussions publiques aident les victimes à s'exprimer.
Une certaine libération de la parole. On a beaucoup parlé des agressions sexuelles quand il y a eu le phénomène MeToo. Ce n'est pas facile de venir à la police pour déposer une plainte. Et de notre côté, on a quand même fait beaucoup d'efforts pour améliorer la prise en charge, d'un point de vue de la police, des victimes de différentes infractions à caractère sexuel.
Dans les différents cantons, en effet, les polices ont aussi formé des équipes spécialisées pour prendre les dépositions des victimes de violences sexuelles.
Et autres violences liées au genre, Pierre-Anne, les violences domestiques.
Oui, plus de la moitié des homicides ont été perpétrés dans la sphère domestique, un féminicide toutes les deux semaines. Et la situation empire en ce début d'année puisqu'on en a déjà enregistré 11 en 12 semaines. Les structures d'accueil pour les victimes de violences conjugales ne parviennent pas à répondre aux besoins, ce qui choque la coprésidente des femmes socialistes, Tamara Funiciello.
Il faut des centres d'accueil pour des femmes battues par exemple, il faut de l'argent pour du travail de prévention. Et moi je vois pas ça, c'est la politique et la société en fait qui échoue complètement. C'est quand même bizarre de parler de sécurité tout le temps en parlant du militaire, mais pas de parler de la sécurité des femmes qui meurent.
Une pétition a d'ailleurs été remise cette semaine au gouvernement suisse pour qu'il débloque des moyens supplémentaires afin de mieux prévenir ces violences domestiques.
On va se quitter cette semaine au Canada. Le Canada désormais, Nadi, en pleine campagne électorale.
Oui, depuis le 23 mars dernier, le Premier ministre Mark Carney a alors demandé à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement et de déclencher des élections fédérales anticipées en vue d'un scrutin le 28 avril. Peu de temps après le déclenchement des élections, tour à tour, les différents chefs de parti ont pris la parole pour faire part de leurs priorités et réitérer leurs promesses.
Et sans surprise, le nom du président américain était sur toutes les lèvres.
Absolument. D'ailleurs, Mark Carney a dit vouloir obtenir des Canadiens un mandat fort et positif pour faire face à la guerre commerciale lancée par l'administration de Donald Trump. Depuis quelques semaines, le président américain impose des droits de douane de 25% sur plusieurs produits canadiens. Le chef de la Maison-Blanche a aussi souvent répété qu'il veut faire du Canada le 51e État américain. Voici Mark Carney.
Nous ne pouvons pas contrôler le président américain. Mais nous pouvons contrôler notre destin. Nous sommes maîtres chez nous.
Le chef libéral appelle aussi la population à l'unité.
Et on a dit qu'on dit les autres chefs de parti.
Eh bien, le Parti conservateur affirme que les Canadiens ne peuvent pas se permettre une autre décennie perdue aux libéraux. Selon son chef Pierre Poilievre, les libéraux ont affaibli l'économie, l'armée et les frontières, laissant le pays vulnérable devant le président américain. De son côté, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, promet d'opposer la confiance et la raison à la peur que suscite Donald Trump.
Les Québécois ont la couenne dure. Au point où l'argument de la peur ne sera pas très efficace avec les Québécois.
Le nouveau Parti démocratique s'en est pris aux libéraux et aux conservateurs en les accusant de favoriser les ultra-riches sur le compte des travailleurs, alors que le Canada risque une crise économique. Enfin, le Parti vert veut une meilleure redistribution de la richesse.
Nadi Mobarak et Radio-Canada pour refermer l'accent des autres cette semaine. Il me reste à vous fixer rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, en compagnie bien sûr des médias francophones publics. Excellente fin de semaine.
À retrouver sur RFI.fr, c'était l'accent des autres avec Olivier Nederland de la RTBF. Votre rendez-vous Vivre ailleurs met le cap sur le salon S'expatrier mode d'emploi. Il a eu lieu cette semaine à Paris pour sa 15e édition. C'est la seule rencontre annuelle qui réunit les spécialistes de la mobilité internationale et les acteurs institutionnels de l'expatriation en France. Cette édition a été organisée par 6 institutions, dont le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, avec un thème central, les jeunes. Gaëlle Rémy Néris-Lévesque est la directrice de la communication et du développement du groupe SPAT qui encadre cette rencontre. Corinne Manjou l'a rencontrée.
Alors cette année, le salon est placé sous le signe de la jeunesse. Nous avons beaucoup d'acteurs, d'organismes qui proposent des services pour que les jeunes s'expatrient. J'entends par jeunes à la fois les étudiants et les actifs, notamment France Volontaire, les PVTistes, qui sont des organisations qui préparent et renseignent les jeunes à l'expatriation.
Quelles sont les nouveautés de cette édition ?
Cette année, juste avant l'événement, le Canada a dû annuler sa participation puisqu'il y a des élections fédérales. Ils ont interdiction de communiquer au grand public jusqu'à la fin avril, jusqu'au 28 avril très exactement. Donc l'ambassade du Canada ne pouvait pas être représentée. En revanche, une délégation du Québec régionale pour la mobilité professionnelle est présente aujourd'hui. On a beaucoup de destinations représentées cette année. Bon, le Québec est là, mais il y a aussi EURES, la filiale de mobilité de France Travail, qui est là et qui représente des destinations comme l'Espagne, l'Italie, la Suède. J'en oublie, il y en a beaucoup d'autres. Même le Japon, il y a quelqu'un qui renseigne sur le Japon. Et c'est un pôle très intéressant parce qu'on connaît peu, en fait, cette filiale de France Travail, EURES, qui est européenne, voire même de mobilité internationale hors Europe. Et c'est important parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir s'expatrier en ayant un travail sur place.
Cette année, en l'absence du Canada, le stand de l'Espagne est envahi. Comment expliquez-vous cela ?
L'explication la plus probable, c'est que l'Espagne a un dynamisme certain, un dynamisme économique certain. Je pense que c'est ça qui attire avant tout à la fois les travailleurs et les retraités, parce que pour le coup, on a toutes les cibles, toutes les typologies de visiteurs représentées sur le salon. Donc les retraités, les actifs et les jeunes dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, ce dynamisme économique dont on parle pour l'Espagne attire forcément toutes les populations.
Et les retraités parce que le coût de la vie est moindre qu'en France.
Absolument. Ça, c'est indéniable. Un coût de la vie moindre attire forcément. Il y a eu la vague au Portugal. Aujourd'hui, c'est vraiment l'Espagne qui intéresse. Et on voit poindre l'Afrique du Nord aussi, avec le Maroc, qui est une destination qui est en pleine expansion, qui crée beaucoup d'universités qui se tournent vers l'éducation et qui donc est plébiscitée aussi par les jeunes.
Est-ce que cette année, l'organisation est uniquement en présentiel ?
Non, comme chaque année, il y a la possibilité de venir une journée à la Cité internationale universitaire de Paris. Mais ensuite, il y a un certain nombre de conférences qui sont en streaming et qui seront ensuite en replay sur le site web s'expatriermodedemploi.org. Évidemment, venir sur place, c'est toujours mieux parce que là, vous rencontrez les institutionnels, les organisations publiques, enfin les représentants de ces organisations publiques. Et on sait que rien ne remplace la présence humaine ou les échanges humains. Donc aujourd'hui a lieu ce salon en présentiel et ensuite à partir de la mi-avril, certaines des conférences pourront être vues sur le site internet s'expatriermodedemploi.org en replay et évidemment tous les liens vers les différents co-organisateurs et partenaires de cette édition pour une redirection vers leur site web et leur service web.
C'était votre rendez-vous Vivre ailleurs qui s'intéressait au salon S'expatrier mode d'emploi. L'invité était Gaëlle Rémy Néris-Lévesque, directrice de la communication et du développement du groupe SPAT qui encadre donc cette rencontre. Vous pouvez réécouter ce podcast sur notre site internet rfi.fr. RFI, il est bientôt 5h30 à Paris. Dans un instant, c'est votre édition Afrique Matin présentée par Sébastien Duhamel. On s'intéressera notamment aux efforts diplomatiques pour maintenir la paix au Soudan du Sud. Restez avec nous.
Géopolitique.
L'Inde est désormais devant la Chine, le pays le plus peuplé de la planète et également la cinquième puissance économique mondiale.
Il y a quelques semaines, le dirigeant indien Narendra Modi a dialogué avec Donald Trump, puis avec Ursula von der Leyen, avec laquelle un accord de libre-échange est en vue d'ici à la fin de l'année. Une ère nouvelle est-elle en train de s'enclencher entre l'Inde et l'Union européenne ? État des lieux avec des spécialistes dans géopolitique, proposé par Marie-France Chatin, tout à l'heure à 18h41.
RFI. Ce dimanche, sur RFI, idée Pierre-Édouard Deldic.
Avec la revue Esprit et sa directrice Anne-Lorraine Bujon, nous allons parler de l'actualité de la pensée du philosophe français Maurice Merleau-Ponty.
C'est une figure déjà en fait très contemporaine dans cette volonté de surmonter les dualismes nature-culture, sujet-objet, homme-animal, voilà.
Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.